Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nin Nartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Aimer ce qui est de Byron Katie est un ouvrage de développement personnel centré sur une méthode d'investigation intérieure appelée le travail. Le livre part d'une idée directrice simple, ce ne sont pas les événements en eux mêmes qui créent la souffrance, mais les pensées que nous entretenons à leur sujet. À travers une démarche structurée, l'autrice propose au lecteur de identifier une pensée stressante, de la soumettre à quatre questions. Puis, de l'explorer des retournements qui ouvrent d'autres perspectives. L'ensemble est présenté comme un manuel pratique, conçu pour une mise en application directe sur des situations du quotidien, notamment les conflits relationnels, la culpabilité, l'anxiété et les jugements. L'ouvrage s'appuie aussi sur l'histoire personnelle de Byron Katie, qui décrit un changement intérieur majeur survenu en 1986 et à l'origine de son enseignement. Le ton vise la clarté et l'efficacité, avec l'ambition de rendre l'autonomie psychologique accessible au plus grand nombre. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la souffrance comme effet des pensées plutôt que des faits. Le point de départ du livre consiste à distinguer la réalité des interprétations mentales que nous y superposons. Byron Katie insiste sur un mécanisme Freck, nous vivons une situation, puis nous ajoutons des jugements, des scénarios et des exigences. Et c'est cette couche mentale qui déclenche stress, colère ou tristesse. Le lecteur est invité à repérer les formulations typiques qui nourrissent la tension interne. Par exemple, il ou elle devrait, cela ne devrait pas arriver, je dois absolument, ou encore on ne me respecte pas. Cette perspective ne nie pas les difficultés concrètes, mais elle déplace le lieu du travail plutôt que vouloir contrôler le monde. Il devient possible d'examiner les croyances qui provoquent la résistance intérieure. L'approche vise ainsi à rendre visible le code des pensées automatiques, notamment quand elles se présentent comme des évidences. En ramenant l'attention sur ce qui est réellement connu et observable, la méthode cherche à réduire les conflits internes et à restaurer une forme de paix pragmatique. Le livre propose un cadre pour transformer une réaction émotionnelle en enquête lucide sur ce que l'esprit affirme et sur ce que l'expérience démontre réellement. Deuxièmement, les quatre questions comme outil de clarification mentale, le travail repose sur quatre questions conçues pour examiner une pensée stressante avec rigueur et simplicité. L'idée n'est pas de se convaincre d'aller mieux, mais de vérifier la solidité de ce que l'on croit. La première étape consiste à choisir une pensée précise, formulée clairement, afin d'éviter les généralités. Les questions amènent ensuite à tester la certitude, puis à observer les effets de la croyance sur le corps, les émotions, le comportement et la relation aux autres. L'enquête met en lumière comment une seule phrase tenue pour vraie peut générer anticipation, défense, agressivité ou fermeture. Enfin, le processus invite à imaginer qui l'on serait sans cette pensée, non pas dans l'abstraction, mais dans la situation concrète, quelles actions deviendraient possibles. Quelle disponibilité intérieure apparaîtrait? Quelles alternatives émergeraient? Cette structure favorise un passage de la réactivité à l'observation et du commentaire mental à expérience directe. Le livre présente ces questions comme un instrument utilisable par tous, sans prérequis ésotériques, à condition d'accepter un effort de notre intérieur, la répétition. Selon l'ouvrage, consolide une compétence celle de reconnaître rapidement les pensées génératrices de souffrance et de les examiner avant qu'elles ne dominent la perception. Troisièmement, les retournements élargissent la perspective sans se mentir. Après le questionnement, Byron Katie propose d'explorer des retournements. C'est-à-dire des reformulations de la pensée initiale qui ouvrent d'autres lectures possibles. Cette étape n'est pas une simple pensée positive, car elle demande de trouver des exemples concrets et sincères qui rendent le retournement crédible. Si la pensée accuse quelqu'un, un retournement peut consister à examiner sa propre part ou à envisager que l'inverse soit aussi vrai dans certains aspects. L'intérêt est double d'une part. Le retournement révèle la partialité du jugement initial, souvent focalisé sur ce qui confirme la plainte. D'autre part, il réintroduit de la responsabilité personnelle au esprit, se lie uniquement victime. Le livre insiste sur le fait que cette exploration ne vise pas à nier les torts d'autrui, ni à excuser l'inacceptable, mais à sortir de la rigidité mentale qui enferme. En pratique, les retournements deviennent un entraînement à la nuance, voir comment une croyance peut être vraie, fausse ou seulement partielle selon l'angle. Cette souplesse cognitive peut réduire l'escalade des conflits et rendre plus accessibles des actions efficaces, comme poser une limite, demander clairement ou s'éloigner, mais sans la charge de haine ou de rumination. Le retournement sert alors de passerelle entre compréhension intérieure et comportement plus ajusté. Quatrièmement, un manuel de pratique de la feuille 2 enquête à autonomie. Aimer ce qui se présente comme un guide d'utilisation, avec une démarche pas à pas destinée à être appliquée sur ses propres pensées. Le lecteur est encouragé à écrire, car l'écriture rend les croyances visibles et vérifiables, au lieu de les laisser flotter comme un bruit de fond. À l'intérêt d'une approche structurée est de transformer une intention vague, aller mieux, en une pratique concrète, choisir une situation, identifier une pensée stressante, répondre aux questions, explorer les retournements, puis observer les changements de perception. Le livre met, elle, l'accent sur la répétition, ce n'est pas une lecture unique qui produit l'effet, mais l'usage régulier de l'outil. Cette orientation pratique distingue l'ouvrage de textes plus inspirants mais moins opérationnels, en invitant à travailler sur des scènes réelles, disputes, déceptions. Peur du jugement, sentiment de l'injustice, la méthode vise une autonomie progressive, apprendre à se guider soi, même dans l'examen intérieur, plutôt que dépendre d'une personne ou d'un cadre thérapeutique. Le travail peut aussi être utilisé de façon ciblée sur un thème récurrent, comme le besoin d'approbation, à l'anxiété liée au futur ou le regret. Dans cette logique, le livre se place moins comme une théorie sur l'esprit que comme une boîte à outils pour réduire la souffrance psychologique au quotidien. En dernier lieu, relations, projections et fin des guerres intérieures, une grande part de la souffrance décrite dans le livre naît dans les relations attentes envers le partenaire. Ressentiment envers la famille, conflit au travail ou comparaison sociale. Byron Katie souligne que l'esprit projette facilement sur les autres ce qu'il ne veut pas voir en soi. Puis construit un récit de séparation. L'autre est le problème, je serais en paix si l'autre changeait. Le travail propose de ramener elle en quête à l'intérieur, non pour se blâmer, mais pour voir comment une croyance relationnelle façonne elle l'expérience. En questionnant des phrases, comme il ne me suit, écoute pas ou elle devrait me respecter, le lecteur observe ses propres exigences, ses interprétations et sa tendance à lire des intentions. Les retournements, lorsqu'ils sont détaillés par des exemples, peuvent révéler une demande non formulée, une limite non posée ou une attente irréaliste. Cette clarification peut conduire à des échanges plus directs, moins chargés émotionnellement ou à des décisions plus calmes. Le livre met aussi en avant la possibilité d'aimer ce qui est, non pas comme résignation, mais comme alignement avec le réel tel qu'il se présente avant d'agir. Cette position réduit la lutte contre l'inévitable et libère de l'énergie pour répondre avec discernement. Dans les relations, cela peut signifier écouter au lieu d'attaquer, demander au lieu d'exiger ou se protéger sans diaboliser. Le résultat visé est une pacification intérieure qui rejaillit sur la qualité du lien. En conclusion, aimer ce qui est s'adresse à toute personne qui souhaite diminuer le stress. La rumination et les conflits intérieurs par une méthode concrète, applicable sans jargon complexe. Les lecteurs qui se sentent prisonniers de pensées répétitives, de ressentiments ou d'anxiété, y trouvent un cadre simple pour examiner ce qui, d'habitude, reste implicite les croyances tenues pour vraies. Le bénéfice principal est pratique à prendre une forme d'auto-enquête qui, avec l'entraînement, permet de relâcher la certitude, de retrouver de la souplesse mentale et de choisir des réponses plus justes. Le livre peut aussi intéresser ceux qui ont déjà exploré la méditation ou la thérapie et cherchent un outil complémentaire, orienté vers la clarté cognitive et la responsabilité personnelle. Ce qui le distingue dans le champ du développement personnel est son caractère procédural 4 questions. Puis un travail de retournement, ce qui donne une méthode reproductible plutôt qu'une simple philosophie. Elle approche ne promet pas d'éliminer les difficultés de la vie, mais de réduire la souffrance, ajoute par l'interprétation automatique. Pour qui accepte de se confronter honnêtement à ses propres pensées, l'ouvrage propose une voie directe vers davantage de paix intérieure, de lucidité relationnelle et de liberté psychologique au fil d'une pratique régulière et vérifiable. Si vous souhaitez soutenir Byron Katie, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.